Bonjour et bienvenue pour le début de ce cycle de conférences dédié à Ougarit, donné par le professeur Herbert Nier, que certains d'entre vous connaissent peut-être parce qu'il vient de temps à autre à Paris. Il était là aussi pour le colloque sur la stèle de Mécha que nous avons fait en octobre. Mais je voudrais quand même très brièvement vous le présenter. Herbert Nier a fait ses études de théologie et de sciences de religion à Bonn. Il a fait sa thèse à Würzburg et aussi son habilitation. Et il est maintenant professeur à Tübingen, où il y a deux facultés théologiques.
Maintenant.
Maintenant, depuis un moment.
92.
Oui, bah, mais toujours, depuis 92. Toujours. Alors, donc, à Tübingen, il y a deux facultés théologie à l'université d'État, donc la faculté protestante, la faculté catholique où Herbert Nier enseigne. Donc, il enseigne l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, mais il est aussi, et puis il enseigne également, ce qu'on pourrait appeler ici le milieu biblique, justement, les religions en lien avec le monde biblique. Notamment, il est spécialiste de Ougarit, c'est pour cela qu'on l'a fait venir, mais aussi des Phéniciens, des Araméens. Donc, il est vraiment un des plus grands spécialistes de ces religions du Levant. Donc, je pense, comme c'est ma conviction profonde que pour comprendre la Bible, il faut comprendre ce qui se passe autour. C'est une bonne occasion d'avoir Herbert Nier parmi nous. Il a écrit beaucoup de choses dans toutes sortes de langues. Donc, je n'ai pas tout amené. J'ai amené un livre très important qui est en allemand, Baal Shaman. Donc, ça, c'est en effet un livre sur certaines évolutions de la divinité Baal dans le monde phénicien, mais qui a aussi évidemment des conséquences pour la compréhension de l'évolution du dieu Yahvé en Israël. Ensuite, il a édité ce livre très important aussi en anglais sur The Arameans in Ancient Syria, donc si vous voulez savoir des choses sur les Araméens. Et finalement, en français, donc un livre coécrit avec Corinne Bonnet.
Et traduit de l'allemand, n'est-ce pas ?
Traduit de l'allemand, voilà.
Ça,
mais bon, ici, j'ai préféré quand même la version française. La religion des Phéniciens et des Araméens. Et donc là, vous avez donc une très bonne introduction en français. Je fais circuler les livres et en espérant toujours évidemment qu'ils reviennent. Alors, donc les quatre, mais le professeur Nier va le préciser, les quatre conférences qu'il va donner sont en effet dédiées aux deux grandes épopées royales d'Ougarit, donc Kirtou, Keret, on disait avant, et Akatou. Et vous allez voir aussi, c'est très important pour comprendre évidemment le monde ougaritique, mais ça a de nouveau des conséquences, bien sûr, aussi pour les différents systèmes religieux qui sont à l'origine de la religion de l'Israël et de Juda ancien. Voilà, je ne vais pas trop empiétiner sur son temps, et je le remercie encore une fois. On pourra prendre à la fin peut-être quelques moments de questions. Et donc, peut-être juste une précision, que normalement les cours ont lieu les mercredis, donc les mercredis qui viennent. Aujourd'hui, à cause du 8 mai, c'est un jeudi, mais je vous redirai les autres dates encore à la fin. Voilà, merci encore.
Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, tout d'abord, je voudrais bien remercier mon collègue Thomas Romer, qui vient de parler, et l'Assemblée des professeurs du Collège de France de m'avoir invité à donner une série de conférences sur les épopées royales d'Ougarit. Dans le cadre de ce cycle de quatre conférences, nous aborderons deux œuvres littéraires de l'âge du bronze récent, les épopées royales d'Ougarit, devenues connues sous les noms de leurs protagonistes respectifs, Kirta et Akatou, que vous aviez là sur l'écran. Je vous propose d'approfondir la compréhension de ces deux œuvres au moyen de certains passages sélectionnés qui se prêtent plus particulièrement à une interprétation dans les contextes de la royauté, de la littérature et de la religion, ainsi que de l'archéologie et de l'art d'Ougarit. Après la destruction d'Ougarit en 1185 avant Jésus-Christ, la ville restait abandonnée, ce qui en fin de compte signifiait la mort de la ville et de sa civilisation. Peu de temps après la découverte du site de Ras Shamra, en mars 1928, commencèrent les fouilles de la ville en 1929, ce qui veut dire que nous sommes en train de célébrer les 90 ans de la découverte du site d'Ougarit Et il y aura aussi quelque chose là-dessus au mois de novembre, ici au Collège de France, mais aussi au Musée du Louvre. Les fouilles du site d'Ougarit, je pense que ce plan est bien connu ici à Paris, les fouilles ont dégagé plusieurs aspects très intéressants de la ville d'Ougarit. Nous avons par exemple ici la soi-disant acropole de la ville avec les deux temples, le temple du dieu Baal. Et ici, les plans français disent toujours le temple du dieu Dagon. J'ai mes doutes là-dessus, parce que selon moi, c'est plutôt le temple du dieu El et le dieu Dagon, dont on a trouvé deux stèles avec son nom dans le terminus du temple. Le dieu Dagon était peut-être un dieu Sinaos, comme on dit en grec, un dieu qui était aussi vénéré dans ce temple. Donc plutôt le temple du dieu Elle. Ici, entre les deux temples, se trouve la soi-disant maison du grand prêtre, avec aussi les tablettes en argile des épopées de Kirta et d'Akatou. Puis ici, à l'ouest, nous avons le soi-disant palais royal, aussi avec des archives sur les textes d'économie, diplomatie, mais aussi avec quelques rituels, peut-être aussi avec quelques mythes fragmentaires. Et ce qui était aussi important pour nous, c'est la maison d'Ourthénou, ici au sud de la ville. Lors des fouilles sur l'acropole de la ville de Ras Chamra, les archéologues dégagèrent la maison maison du grand prêtre. Et ici, on a deux chambres importantes. C'est d'abord la soi-disant chambre 7, avec les tablettes, comme vous voyez ici, de 29, de 32, et aussi cette région au sud, les tablettes de 31 et aussi d'autres années. Et dans la partie sud de la maison, ça c'est la chambre 7, on a découvert un lot de plusieurs tablettes en argile contenant, entre autres, les trois tablettes de l'épopée de Kirta ainsi que les trois tablettes de l'épopée d'Akatou. Dans ce contexte, je ne peux que mentionner très brièvement le déchiffrement de l'écriture alphabétique d'Ougarit par Hans Bauer de Halle an der Saale, Paul-Édouard Dorme, Jérusalem, et puis ici à Paris, Charles Virolo et Marcel Cohen, les deux aussi à Paris, pendant les années 1929 à 1932. Le déchiffrement de l'écriture alphabétique cunéiforme d'Ougarit était mené à terme assez vite, mais les débats sur l'interprétation du contenu des tablettes, soit des listes divines, soit des rituels, ou bien des cycles mythologiques et épiques, persistent jusqu'à nos jours. C'est pour cela que le cycle de mes conférences ne donnera pas l'interprétation définitive des épopées royales d'Ougarit, mais présentera plutôt un travail en cours. Grâce au colophon qui se trouve sur les 6 tablettes des épopées royales et dont Denis Pardy a préparé une vue d'ensemble dans un article, et ça se trouve aussi sur une tablette mythico-magique de la maison d'Ourthénou, nous connaissons leur auteur, ou scribe-auteur, ça c'est toujours la grande discussion. C'était un fonctionnaire royal du nom Ilimilku, vous avez le nom par ici, Sapiru Ilimilku, le scribe, la traduction de Pardy, le scribe Ilimilku de Shubanu, le lieu d'où il vient. Et ce scribe-auteur Ilimilku vivait pendant les règnes des deux derniers rois d'Ougarit, cela veut dire Nigmadukat, qui régnait vers 1225 ou 20 jusqu'à 1215 ou 10, et de son successeur, ça veut dire le dernier roi sur le trône d'Ougarit, Amurapi, qui régnait soit de 1215 ou 1210 jusqu'à la fin du royaume en 1125 avant Jésus-Christ. Le colophon le plus long se trouve sur la dernière tablette du cycle de Baal. Vous avez ici le texte en transcription latine, puis la traduction de Pardy, le scribe, ou on pourrait aussi dire le scribe est, c'est une phrase nominale en ougaritique, le scribe est Ilimilku de Shubanu, élève de Athénou, devin, ça c'est ici Athénou, le nom propre, un nom propre ourite, pour l'anou signifie le devin, chef des prêtres, chef des éleveurs, peut-être de bétail pour le culte sacrificiel ou aussi pour des raisons économiques, officiant Fa'ayu de Nigmadu, et maintenant viennent les titres du roi d'Ougarit, seigneur de Yargoub, une domaine peut-être, maître de Farimanu. Un deuxième colophon se trouve sur la quatrième tablette du cycle de Baal, un peu fragmentaire, on sait encore lire Fa'ayu, c'est pour cela qu'on peut traduire le scribe est Ilimilku, officiant Fa'ayu de Nigmadu, roi d'Ugarit. Troisième exemple, troisième tablette de l'épopée de Kirta, le scribe est Ilimilku, officiant Fa'ayu. Et sur Akatu, encore une fois, première tablette, tranche gauche, le scribe est Ilimilku de Shubanu, élève de Athéno des Vins. Et encore une fois, sur une tablette trouvée en 92 dans la maison d'Urtinu, le scribe est Ilimilku de Shubanu, élève de Athéno des Vins. Ça, ce sont les cinq colophons qui mentionnent le nom de notre auteur ou de notre scribe. Ça, c'est toujours la discussion. Ilimilku. De tous ces colophons, on obtient trois informations précieuses sur le personnage d'Ilimilku. D'abord, il était le scribe, Sapiru, des tablettes contenant les mythes et les épopées, aussi un texte mythico-magique d'Ugarit. Deux, il était l'élève d'un devin ourite, Athénou. Et trois, il exerçait la fonction d'un fa'ayu, cela veut dire qu'il avait soit une fonction à la cour royale, soit une fonction culturelle ou religieux. Il y a toujours une discussion là-dessus. Par exemple, mon collègue Wilfried van Zolt de Leiden pense que Fa'ayu correspond à Sukal, donc il s'agit d'un haut fonctionnaire à la cour royale, mais il ne nie pas les fonctions cultuelles aussi d'un Fa'ayu, pendant que Dennis Pardy de Chicago a souligné que le titre Fa'ayu se trouve seulement dans les textes cultuels, donc on pourrait le caractériser comme une fonctionnaire religieuse. Il y a aussi un long débat sur la question si Ilimilku était l'auteur des épopées au sens moderne du terme ou s'il était un simple scribe qui a seulement copié des originaux plus anciens, peut-être comme exercice scolaire, parce qu'il y a les fautes là-dedans, les fautes d'orthographie. Et donc, il y a des collègues qui songent à des exercices scolaires. Ce sont là les deux positions extrêmes du débat. Et en ougaritique, nous n'avons que le titre Sapiru. À mon avis, les tablettes avec le mythe de Baal et les deux épopées royales ne sont pas du tout des exercices scolaires. Ilimilku, comme nous venons de voir, était un homme d'une haute position politique ou religieuse à Ugarit, qui se montre clairement dans quelques lettres qui jettent un éclairage sur la position importante d'Ilimilku à Ugarit. En outre, il y a plusieurs trouvailles archéologiques dans la ville d'Ugarit qui se réfèrent à Ilimilku. Le savant, c'est un peu faible, mais quand même, le savant américain Aaron Tugendhat les a visualisés sur un plan qu'il a publié dans sa thèse « Baal and the Politics of Poetry » pour faire preuve du réseau de communication qu'Ilimilku entretenait à Ugarit. Donc, il montre, ce qui est juste, que Ilimilku a travaillé dans la soi-disant maison du grand prêtre, où il a écrit le cycle de Baal, de Kirta, d'Akatu, et il y a aussi une lettre de Baalu Bur, une lettre adressée à Ilimilku. Il y avait des contacts avec la maison d'Urtenu, il y a des lettres à Urtenu, etc. Et il y a ici des contacts avec le palais royal d'Ugarit. Quand même, il se pourrait que ce plan soit un peu optimiste, car on ne sait pas si tous les personnages qui portaient le nom d'Ilimilku à Ugarit sont en fait tous notre Ilimilku ou s'il faut les différencier. Cela veut dire que nous avons ici un problème de prosopographie. Et jusqu'ici, ça c'est le plan très optimiste, mais jusqu'ici, on ne peut pas en être absolument sûr. Mais quand même, dans ce réseau communicatif, on distingue facilement trois sites importants que je viens de montrer. La maison du grand prêtre sur l'Acropole, où l'on a trouvé le grand lot des tablettes d'Ilimilku, le palais royal et la maison d'Urtenu, qui est aussi étroitement liée au palais royal. À la lumière des lettres trouvées au palais royal et à la maison d'Urtenu, et aussi à la base du texte mythico-magique, Ilimilku était un homme politique qui entretenait des relations étroites avec la cour royale, spécialement avec la reine d'Ugarit, ainsi qu'avec la classe supérieure d'Ugarit. Il faut encore une fois revenir sur la question de l'auteur. Comme mentionné ci-avant, à mon avis, Illémilco n'est pas un auteur au sens moderne du terme, parce qu'il a plutôt rédigé des versions déjà existantes de ses épopées, soit en forme écrite, soit en forme orale. Mais il faut avouer que les épopées en forme écrite, les doublettes, si l'on veut ainsi, n'ont pas été trouvées à Ougarit, dont nous n'avons pas les textes prédécesseurs de nos épopées royales d'Ougarit. Peut-être qu'on se racontait ces histoires depuis des siècles, mais il nous manque les traces pour cette tradition orale à Ougarit. L'œuvre d'Illémilco est donc la première mise par écrit de ces épopées et aussi du cycle mythologique de Baal. Sur ce tram, on pourrait désigner Illémilco comme un écrivain engagé et comme Aaron Tugendhat a bien démontré pour le cas du cycle de Baal. Il faut lire l'œuvre d'Illémilco dans le cadre de la politique ougaritaine de l'âge du bronze récent. Les trois grandes pièces poétiques d'Illémilco, Baal, Kirta et Akatu, ne sont pas seulement des contes pour entretenir un public savant, mais ce sont des textes politiques adressés au roi et aux membres de la cour royale, particulièrement aux princes héritiers. Je reviendrai encore sur ce point dans la conclusion générale de mes conférences en 3 semaines. Avant de faire une exégèse de textes sélectionnés de l'épopée de Kirta, je voudrais bien présenter un petit résumé du contenu de cette épopée. Cette épopée raconte le destin du roi Kirta. Il est important de noter que selon notre épopée, Kirta n'était pas un roi d'Ougarit, mais le souverain du royaume Bitrubur au nord de la Mésopotamie. Quand même, l'action principale de cette épopée semble se dérouler à Ougarit et dans ses environs. Cela se montre dans les noms ourites du roi Kirta, sur lequel je reviendrai encore, et de son épouse Ouria, nom propre qui ne figure pas dans l'onomastique d'Ougarit. En plus, toutes les divinités mentionnées, par exemple El, ou Baal, ou Anat, ou Afiratu, sont les dieux et les déesses d'Ougarit, qui sont bien connus par les listes divines et les textes rituels mis au jour à Ougarit. Il y a encore d'autres vestiges qui renvoient à Ougarit. Le culte parallèle des dieux El et Baal, vous vous souvenez de la carte de l'acropole d'Ougarit, où l'on a les deux temples, temple de Baal et temple d'El, selon moi tout au moins, et aussi selon Parloxella et selon d'autres savants, le culte parallèle des dieux El et Baal. Puis nous avons les monts saints, Safon, Sapunu, et Nanayu, les deux montagnes au nord d'Ougarit, siège du dieu Baal, le dieu de l'orage. Puis le culte des ancêtres royaux, qui sont nommés les Rafiouma, en français les guérisseurs, terme technique pour les rois décédés divinisés. Et il y a aussi l'existence des lieux pour le culte royal funéraire dans le palais royal d'Ougarit, qui sont appelés Reshta et Apu, avec des termes Hittite ou Rite, Reshta et Apu, des termes que nous connaissons des rituels et aussi de l'épopée de Kirta. Maintenant, Bitrubur, ça c'est seulement la première tablette, ici terminée. Appelée la légende de Keret, j'en parle encore, ça c'est la vocalisation de Charles Virolo, la première tablette qui se trouve ici au musée du Louvre pour avoir une petite impression. Et ce qui est important pour nous, c'est la géographie. Bitrubur désigne un royaume au nord de la Mésopotamie dont l'existence n'est pas assurée dans les sources historiques. Ça veut dire que le nom Bitrubur existe seulement dans le texte de l'épopée de Kirta. Pendant l'âge du bronze moyen et récent, cette région, au nord de la Mésopotamie, cela veut dire environ cette région-ci, cette région était dominée par le royaume des Ourites, cela veut dire par le royaume du Mutani ou par le royaume de Khanigalbat. Il est aussi important de noter que dans les listes des rois d'Ougarit, qui sont bien documentées, un roi Kirta ne figure jamais. Mais le nom de Kirta est attesté sur un sceau trouvé à Alalakh, au nord d'Ougarit, sur l'Oronte. Nous l'avons ici. Ça, c'est une copie du sceau. Et vous voyez ici le texte, cette inscription sur le sceau, « Shutarna, Dumu », cela veut dire « le fils », Kirta, Lugal, le roi, Maitani, Dumitani. Ça, c'est la première mention du nom de Kirta. Et nous savons aussi la vocalisation correcte de ce nom à cause de cette inscription du sceau d'Alalar. Cette inscription est datée, comme vous voyez ici, ça, c'est l'article du Real Lexicon de Assyriologie, Subvoce Mitani. Vous voyez ici la datation du niveau 4 du palais d'Alalar, qui est datée environ dans la deuxième moitié du 15e siècle avant Jésus-Christ, justement un peu avant la mise par écrit des textes d'Ougarite. Alors, je viens de mentionner que l'inscription dit « Shutarna, fils de Kirta, roi de Mitanni ». Nous avons une certaine ambiguïté dans la traduction et dans l'interprétation de cette inscription, parce qu'il n'est pas tellement clair si Kirta, si le titre Lugal Maitani se réfère à Kirta ou seulement à son fils Shutarna. Alors il se peut que Shutarna, le fils d'un Kirta que nous ne connaissons plus, était un roi de Mitanni au 15e siècle avant Jésus-Christ. Ça se peut. Mais il est aussi possible que déjà Kirta était roi du Mitanni, et il n'y a pas d'autres preuves là-dessus. Alors, il reste une certaine ambiguïté sur l'interprétation de cette inscription sur le sceau d'Alalar. En tout cas, Kirta est l'ancêtre dynastique des rois du Mitanni. Le royaume de Shutarna, le royaume du Mitanni, se trouve, je reviens ici, au nord de la Mésopotamie, entre l'Euphrate à l'ouest et le Tigre à l'est. Vous avez ici les grands fleuves, ici ça c'est le Tigre, ici ça c'est l'Euphrate. Vous avez ici Vashukani. Vashukani était le nom de la capitale du royaume du Mitanni. Et on trouve ce nom encore au premier millénaire avant Jésus-Christ, comme Sikani, c'est Sikani Telfecheri, où on a dégagé une statue bien importante qui mentionne un roi Hadayishi de Sikani. Alors ça, c'est le même nom, Sikani, Vashukani, la capitale du royaume du Mitanni. Donc, on se trouve ici dans le soi-disant triangle du Khabour. Le Khabour est le plus grand affluent du l'Euphrate. Et la relation entre le roi Kirta et le royaume de Bitroubour, le nom qui se trouve seulement dans l'épopée de Kirta, au nord de la Mésopotamie, est donc bien établie. Il se peut aussi que le nom de l'épouse du roi Kirta, Huria, soit une allusion au Hurrite. Mais tout cela ne suffit pas encore pour prouver que ce roi Kirta était vraiment, ou si Kirta était vraiment un roi du Mitanni. Il y a encore des lacunes dans notre argumentation. Mais quand même, on peut dire qu'il y avait un ancêtre royal qui régnait au nord de la Mésopotamie du nom de Kirta. Dans un article paru dans la revue Res Antiquae numéro 7 en 2010, notre collègue décédé Pierre Bordreux a caractérisé à juste titre la littérature d'Ougarite comme creusée de traditions venues d'outre-mer et d'outre-mont. L'épopée de Kirta est un bon exemple de la réception d'une traduction légendaire venue d'outre-mont. D'outre-mont, cela veut dire de la région du nord du Safon, où il y avait le royaume de Moukish, avec Alalar comme capitale, où l'on a trouvé le sceau que vient de montrer, et aussi à l'est del Djebel d'Ansariye, dont nous ne connaissons pas le nom ougaritique, le Djebel Ansariye, qui marquait la frontière est du royaume d'Ougarit. Maintenant, le contenu. De la première tablette que vous venez de voir, de l'épopée de Kirta, on apprend que le roi de Kirta avait perdu sa femme et ses 7 enfants. Dans une telle situation de deuil, Kirta avait besoin du secours des dieux pour assurer la survie de sa dynastie et pour garantir son propre culte des ancêtres, ce qui était important pour sa survie dans l'au-delà. Le dieu suprême du panthéon d'Ougarit, le dieu El, lui promit dans un rêve une femme et des enfants, avant tout un fils héritier. Pour ce faire, Kirta devait sortir victorieux d'une campagne pour obtenir une femme, Uriya, dont il aurait plusieurs enfants et parmi eux un fils héritier de nom Yatsubu. Yatsubu, c'est celui... Ilimilku, ou bien ses prédécesseurs, jouent un peu avec ses noms. Yatsubu, c'est celui qui érige, quoi ? Peut-être la stèle pour les ancêtres. Yatsubu, il érige. Ainsi, tout semblait se dérouler au mieux. Mais il survient une péripétie dans l'épopée. Pendant la campagne que le roi Kirta avait menée pour obtenir Uriya, il était parvenu au sanctuaire de la déesse Aphirat de Sidon. Nous avons Sidon ici, Tsidoun ou Sidon au Liban, au sud du Liban. Ici, c'est Tyr, ici, c'est Sidon. Où il avait fait le vœu de lui faire un don pour améliorer sa situation. Cela veut dire que Kirta avait promis à la déesse Aphirat de lui donner une statue de sa femme Uriya. Uriya, en or et en argent. Mais, depuis cette campagne, Kirta avait oublié d'accomplir son vœu, ce qui avait rendu furieuse la déesse Aphirathou. Ce sont les raisons pour lesquelles le roi Kirta était maintenant en danger de mort. Son sort était remis en question. Face à cette situation, Kirta avait commissionné son fils héritier, Yatsubu, de monter sur le trône à sa place durant sa maladie. Après ce passage, notre texte présente des lacunes. Néanmoins, on peut conjecturer que Kirta a accompli sa promesse de vœux, et en tout cas, on sait que le dieu El lui a envoyé un être créé par ses soins pour le guérir de sa maladie. On en parlera encore. Désormais guéri, Kirta veut récupérer son trône, mais son fils Yasubu, le prince héritier, n'a pas envie de le lui céder. Pour Kirta, cette situation est inacceptable. Il maudit son fils et en vient à souhaiter qu'il meure. À cause de cette malédiction, Kirta n'a plus d'héritier du trône. Malheureusement, la quatrième tablette de notre épopée manque complètement. Si bien que la suite de l'histoire du roi Kirta et l'avenir de sa dynastie nous restent inconnus. Toutefois, il y a deux raisons pour supposer une issue heureuse tant pour le roi Kirta que pour sa dynastie. Le premier indice se trouve dans l'épopée elle-même. Lors des noces du roi Kirta, le dieu El promet au roi un destin heureux après sa mort. Elle lui dit, je le cite, « Tu eus grandement glorifié Kirta parmi les Raphiumas, cela veut dire parmi les guérisseurs, les rois décédés de la terre. Tu eus grandement glorifié Kirta parmi les Raphiumas de la terre, cela veut dire de l'au-delà, dans l'assemblée de Ditanu. Ditanu, un dieu amourite, était le chef des Raphiumas, bien connu de quelques textes d'Ougarit. Ces paroles impliquent en fait l'existence d'une famille qui s'occupera des funérailles royales et aussi du culte des ancêtres. Les paroles du dieu El anticipent donc en quelque sorte le destin heureux du roi Kirta dans l'au-delà. Et comme j'avais dit, ces paroles étaient prononcées lors des noces de Kirta avec Uriya. Alors ça, c'était la première raison pour supposer une issue heureuse de l'épopée. La deuxième raison résulte du caractère didactique de l'œuvre qui était conçue pour éduquer les princes de la cour royale d'Ougarit, avant tout le prince héritier. Il est presque impensable qu'une telle œuvre ait pu se conclure par une vision négative de la dynastie du roi Kirta, qui avait quand même été un serviteur loyal des grands dieux d'Ougarit, avant tout des dieux El et Baal, les protecteurs de la royauté et du royaume. En outre, il manque encore l'accomplissement de la deuxième promesse du dieu El, qui avait promis de faire la plus jeune d'entre les enfants de Kirta l'aîné. On en parlera encore la semaine prochaine. Maintenant, avant de commencer avec une exégèse de texte choisi de l'épopée de Kirta, Je vous donne une petite bibliographie sélective sur notre épopée en ordre chronologique. J'ai préparé quelques copies qui ne suffisent pas en tout cas et j'espère que le reste des copies est déjà là. Alors, je continue. Vous voyez une petite bibliographie sur l'épopée de Kirta, une bibliographie qui ne peut pas être exhaustive, c'est clair. Seulement pour mentionner quelques positions dans la recherche. J'ai commencé avec 5 articles de Charles Virolo, qui était le premier déchiffreur de cette, comme il disait, légende, avec une monographie de 1936, et puis avec quelques articles dans la revue Syria, dans les années 41-42 jusqu'à 43. Il est intéressant de voir, d'abord, qu'il parle d'une légende. Ça, c'est une difficulté pour nous, car ce qui nous manque dans les textes d'Ougarit, c'est la définition des genres littéraires. Donc, nous prenons toujours les termes de la philologie classique, latine et grecque. On parle de mythes, on parle d'épopées, de légendes, mais nous ne savons pas exactement ce qu'on a dit à Ougarit. Donc, il se peut que nos catégories soient un peu fausses. Mais faute de mieux, on travaille comme ça. Donc, Virolo parle d'une légende et c'est aussi lui qui a inauguré une certaine vocalisation de nom. Il dit Keret. Moi, je viens de parler de Kirta, comme vous voyez ici. Kirta, parce qu'entre-temps, nous avons le sceau d'Alalar avec ce nom, Ourit. Alors, pourquoi Virolo parle de Keret? La raison est bien simple. Il n'avait que le consonne. En hébreu, ça serait kaf, resh et taf. La prononciation ougaritique n'est pas claire. Et donc, il a inséré deux fois le ségol de l'hébreu, le e. Donc, il parle de Keret. Ce qui existe toujours dans la littérature d'aujourd'hui, il y a toujours des auteurs qui parlent sur Keret, mais on devrait parler sur Kirta. Puis, il est aussi intéressant de voir, il appelle ce roi, il caractérise ce Keret, roi des Sidoniens. Il ne connaît que quelques aspects de cette légende, de cette épopée. Et je viens de mentionner ce petit passage selon lequel Kirta vient au sanctuaire de la déesse Athiratou à Sidon. Donc, pour Virolon, Keret était le roi des Sidoniens. Et quelque temps après, il a dû changer son avis là-dessus. Mais quand même, les articles de Virolo sont à la base de la recherche sur l'épopée de Kirta. Et puis, dans les années, ou à partir des années 70, on a des meilleures traductions là-dessus, spécialement connues ici en France, et toujours lues. C'est André Caco, Maurice Nissé et André Edner, Mythes et légendes, texte ougaritique 1, dans la série Littérature ancienne du Proche-Orient. Avec des notes qui sont toujours très importantes. Les traductions ne sont pas toujours plus valables, mais quand même, je le consulte toujours. Puis, une grande étape dans la recherche, c'était notre collègue de l'Université de Barcelone, Gregorio del Olmolete, Mitos y leyendas de Canaan, en espagnol, según la tradición de Ugarit, de 81. Une édition bilingue, texte ougaritique, avec la traduction en espagnol et aussi avec des notes et une bibliographie très, très riche. Ça vaut toujours la peine de consulter l'œuvre de Gregorio del Olmolete. Et puis, pour ceux et celles qui préfèrent les textes anglais, avant tout dans les États-Unis, Johannes de Moor, le savant néerlandais de Kampen, Pays-Bas, a traduit « An Anthology of Religious Texts from Ugarit » de 87, aussi très précieux pour nous, spécialement avec les traductions et les notes. De Moor a toujours ses propres vues là-dessus, mais alors il le fait à juste titre. On peut toujours apprendre quelque chose de Johannes de Moor. Et puis, de 97, Edward Greenstein, un grand spécialiste sur l'épopée de Kirta, a publié sa traduction, aussi bilingue, ougaritique, avec un texte un peu ajourné et traduction anglaise dans un volume collectif de Simon B. Parker, Ugaritic Narrative Poetry. Puis, bien connu aussi à Paris, n'est-ce pas, Denis Pardy avec The Kirta Epic, dans le grand œuvre de William Hallowe, The Context of Scripture, en 4 volumes maintenant. Je suis un peu prudent à l'égard du titre Canonical Compositions from the Biblical World. Ougarit n'appartient pas au monde biblique, non ? Et les mythes, le mythe de Baal et le cycle de Kirta et d'Akatu n'est pas du tout canonique au sens théologique, si l'on parle de la Bible, l'Ancien Testament, Nouveau Testament, en ce sens, il n'y a pas de composition canonique comme le désire William Hallowe. Et si quelqu'un d'entre vous préfère lire l'italien, une savante italienne, Chiara Peri, a traduit et a fait une introduction dans ses épopées royales, Poemi Ugaritici della Regalità, de 2004, aussi très intéressant à voir et à parler là-dessus. Et moi-même, j'ai fait une traduction dans la série Texte aus der Umwelt des Alten Testaments. Le terme Umwelt, milieu biblique, c'est aussi un peu ambigu, mais quand même, et j'ai eu la chance de traduire les textes de Baal, Kirta et Apatou, dans le volume 8 en allemand, aussi avec une petite introduction et avec un commentaire là-dessus. C'est la bibliographie sélective pour notre travail ici. Et encore, pour le contexte général de ce genre de littérature, des épopées, et aussi pour l'idéologie royale, il y a 3 livres que je voudrais bien mentionner. C'est d'abord le livre bien connu de Ernst Kantorowicz, un juif allemand qui a dû se réfugier dans les États-Unis, « The King's Two Bodies, a study in medieval political theology », aussi traduit en français dans les éditions Gallimard, « Les deux corps du roi ». Très important pour comprendre aussi la théologie politique de l'Ancien Orient, parce que cette conception des deux corps du roi résulte de l'Ancien Orient. Et en français, on connaît toujours le dicton « Le roi est mort, vive le roi », ça revient aussi de cette théologie politique, non pas seulement du Moyen-Âge, mais aussi de l'Ancien Orient. Puis un savant israélite qui a fait ses études chez nous à Tübingen et aussi à Berlin, Amir Gilan, a fait sa thèse à Berlin sur Formen und Inhalte althethitischer historischer Literatur, Formes et contenus de la littérature vieille hittite, historique vieille hittite, malheureusement pour vous en allemand. Mais il a travaillé sur des textes bien comparables au cycle de Baal et aux épopées de Kirta et d'Akatu, et on peut apprendre grand-chose aussi sur les textes d'Ougarit. Et puis, une doctorante qui a travaillé, dont j'ai eu le privilège de diriger sa thèse, et aussi son HDR, c'est son HDR, Dagmar Kuhn de Tübingen, elle a publié un livre en 18, l'année dernière, « Die zwei Körper des Königs »,« Les deux corps du roi », dans les civilisations ouest-sémitiques, Ougarit, royaume araméen, Phénicie, Ammon, Moab, Israël et Juda. Donc, elle est partie du livre de Kantorowicz, « The King's Two Bodies », et elle a fait un travail sur tous les textes et aussi sur l'iconographie qui sont concernés par cette théologie médiévale et aussi ancienne orientale corps du roi. Alors, ça suffira pour la littérature. Et maintenant, je peux encore commencer avec quelques textes choisis de l'épopée de Kirta. Et je vais continuer cette exégèse la semaine prochaine. Une exégèse de quelques passages choisis de notre épopée démontrera l'intention et le message de notre épopée. Pour bien comprendre le destin du roi Kirta et de sa famille, je commence la lecture avec la catastrophe de la maison de Kirta, qui avait perdu sa femme et tous ses enfants. Je cite, « Il voit sa descendance Kirta, il voit sa descendance anéantie, son foyer une ruine totale, et dans son intégralité, la postérité a péri, et dans sa totalité, sa succession. Il entre dans sa chambre, il pleure. Tandis qu'il répète les pertes, il verse des larmes. Ses larmes coulent comme des cycles à terre, sur le lit comme Saint Cycle. Tout en pleurant, il s'endort. En versant des larmes, il s'assoupit. Le sommeil le vint et il se couche. L'assoupissement et il se courbe. Et dans son rêve, elle descend, dans sa vision, le père de l'homme. Et il s'approche en interrogeant Kirta. Qui est Kirta pour qu'il pleure, pour qu'il l'amoie l'excellent héros d'elle? Demanderait-il la royauté du taureau sans père, la souveraineté comme celle du père de l'homme? Jusqu'ici. Le texte que je viens de lire nous raconte d'abord la raison de deuil du roi Kirta, qui a eu ensuite un rêve dans lequel le dieu El apparaît pour lui annoncer son futur destin. Pour ce qui est du rêve du roi, il s'agit d'un rêve d'incubation, cela veut dire d'un rêve au cours duquel se manifeste une divinité qui donne des instructions ou des informations. Les rêves d'incubation sont bien attestés dans l'Ancien Orient et aussi dans la Bible. Là, l'exemple le plus connu se trouve dans le premier livre de Samuel, chapitre 3. Il s'agit de la vocation du jeune Samuel par le Dieu Yahvé. Notre texte nous fournit aussi des informations importantes sur la position du roi Kirta entre les dieux et les hommes, car le dieu El porte l'épithète Abu Adami. Abu Adami. La majorité des spécialistes de la langue ougaritique traduisent cette épithète Abu Adami avec le père des hommes, pluriel, le père des hommes. Si bien que l'on pourrait songer au premier texte de la création, d'après le premier chapitre du livre de la Genèse. Cependant, il faut voir que l'épithète Abu Adami se trouve uniquement dans l'épopée de Kirta. Et je ne pense pas que dans le contexte de l'idéologie royale, Adamu pourrait désigner l'humanité dans sa totalité, tous les hommes. Adamu désigne plutôt l'homme par excellence, Lugal, par exemple, cela veut dire le roi, ce qui veut dire que le dieu El est le père du roi, mais pas le père de l'humanité. Et nous n'avons pas des récits de création à Ougarit. Il ne faut pas les confondre les textes d'Ougarit avec les textes de l'Ancien Testament, du premier millénaire. En outre, le dieu El est appelé dans notre texte le taureau sans père. Sans père, cela veut dire le père de Kirta, le taureau est le symbole du dieu de l'orage. La désignation d'El comme père de Kirta se retrouve encore une fois dans les lamentations des enfants de Kirta, comme nous verrons encore, sur la troisième tablette de l'épopée. Maintenant, ou ensuite, le dieu El offre à Kirta de l'or avec sa mine, des serviteurs, du cuivre, des chevaux, des chars, des servants et des servantes, et même une souveraineté comme celle d'El. Mais Kirta refuse tout cela, et lui explique qu'il a besoin de progéniture. Pour atteindre son objectif, Kirta a avant tout besoin d'une femme, et le dieu El lui donne des inscriptions pour préparer une campagne à Udum, où vit la dame Uria, la fille du roi Pubalu. Après cette vision du dieu El, le roi Kirta commence à préparer la campagne pour obtenir la dame Uria. Tout cela alors, est raconté dans le rêve du roi Kirta. Le soutien des dieux est de la plus grande importance. C'est pourquoi notre épopée continue comme suit. Je cite, « Il, ça veut dire Kirta, se lava et se maquilla, lava ses mains jusqu'au coude, ses bras jusqu'à l'épaule. Il prit un agneau dans sa main, un nouveau-né des deux mains, il prit une mesure de son pain d'offrande, les entrailles d'un oiseau sacrificiel. Il jeta du vin dans une coupe d'argent, du miel dans une coupe d'or. Il monta au sommet de la tour, il monta sur les épaules du mur, il leva les mains au ciel, il sacrifia au taureau son père, le père du roi Kirta, honorable de son sacrifice, le fils de Dagon, un titre du dieu Baal, le fils de Dagon de sa provision. » Ce texte est bien intéressant pour plusieurs raisons concernant l'histoire religieuse d'Ougarit. Il y a d'abord le rite de purification du roi, qui est aussi attesté dans les textes rituels d'Ougarit. ceci n'explique jamais, ça veut dire les textes rituels, n'explique jamais cette purification. Donc, il est intéressant de voir comment Ili Milku nous en raconte. Le roi se lave ses mains jusqu'au coude et ses bras jusqu'à l'épaule. Ensuite, il se maquille. Ce dernier point reste plutôt obscur. Est-ce que le roi se maquille les mains ou le visage, ou les deux? Est-ce qu'il se teint les mains et les bras au henné? Cela aussi serait possible, mais il n'y a pas de réponse à cette question. Suite à la purification, sont mentionnées les offrandes. Un agneau, du pain, les entrailles d'un oiseau sacrificiel et, comme libation, du vin et du miel. Les offrandes et la libation sont offertes et versées pour les dieux les plus importants du panthéon d'Ougarit, les dieux El et Baal. Ce culte est accompagné d'une prière, ce qui est indiqué par la phrase « Il leva les mains au ciel ». Pour ce qui est du lieu de culte, on doit songer à un des deux temples sur l'acropole d'Ougarit, peut-être à celui du dieu El, parce que ce dieu précède le dieu Baal au rang de divinité du royaume. Mais il y a encore une autre solution. Je reviens à la carte d'Ougarit. Nous avons ici les deux temples. L'épopée entière se déroule à Ougarit, donc le roi Kirta vit dans cette région du palais royal, mais il se peut que le culte a eu lieu sur le toit du temple d'El. Une alternative serait si l'on songe au temple palatial, aussi avec un toit. Il est aussi possible de donner des offrandes aux dieux les plus importants d'Ougarit, Baal et El, ici sur le toit du temple palatial. Ce n'est pas du tout clair de notre texte ougaritique. Après ces rites, il suit la campagne de Kirta, tout comme le dieu El avait conseillé à Kirta. Kirta entreprend une campagne contre la ville royale d'Udum, où vivent Uria, sa future épouse, et son père, le roi Pubalu. Pour la localisation de la ville d'Udum, il y a toujours une certaine discussion. Justement, une belle impression du temple d'El de Dagon par Olivier Callot. Vous voyez ici, on a seulement les murs de fondament préservés jusqu'à nos jours, mais c'est une belle idée de faire ce dessin sur le temple avec le lieu de culte par ici, et aussi dans la cellule du temple, et aussi un lieu de culte qu'on voit ici sur le toit. Une belle idée d'Olivier Callot. Ça, c'est le Bashan. La région de Bashan, d'où venait la dernière dynastie d'Ougarit, et aussi de cette région et la théologie des Raphiouma, des Rephaïm, des ancêtres divinisés des rois d'Ougarit. Et il se peut que le site d'Udum était situé quelque part ici, dans le Bashan, cela veut dire à l'est du lac de Tibériade. C'est difficile à prouver, mais il y a des lieux qui s'appellent Udum. Et on a déjà vu, je reviens encore une fois, la grande carte que je viens de vous démontrer. Alors, Kirta était le région de Bitrubourg dans cette région-ci. Donc, il fait sa campagne en direction du sud. Il vient à Sidon, comme on verra encore, à Sidon, pour faire le vœu à la déesse Aphiratou. Et puis, j'ai l'impression qu'il va dans cette région-ci. Ici, c'est Hatzor. Ici, devrait... Oui, ça, c'est le lac de Tibériade. Et à l'est du lac de Tibériade, nous avons le Bashan, avec probablement le site d'Udum. Il y a aussi d'autres opinions là-dessus, mais je préfère de situer Udum dans cette région-là. Et Kirta, cette campagne a duré 7 journées. La campagne de Bitrobourg à Udum a duré 7 journées, ce qui est possible avec le chemin de l'Ancien Orient. Mais il ne faut pas ignorer que le numéro 7 a aussi une valeur symbolique. Donc 7, c'est une semaine, et après cette semaine, Kirta est arrivé à la cour du roi Pabilou. La semaine prochaine, je devrais parler sur cette campagne encore une fois, et puis aussi sur la position du roi Pabilou et de la dame Uria, la future épouse du roi Kirta. Je vous remercie de votre attention.